C'est toi qui as les clés ?
Ah oui, elles sont là.
Design, cinéma, scénographie, peinture, architecture, la cabane, l'émission où l'on parle d'art sans complexe.
Bonjour à tous, bienvenue sur La Cabane, l'émission qui parle d'art et de culture sans complexe. Alors je suis Harold Buffetot et je suis encore et toujours accompagné de Émilie Lecoq. Salut Émilie.
Salut Harold.
Comment tu vas dans cette belle fin d'année ?
Je me porte plutôt bien, si ça va, au fond de mon placard, parce que cette émission est encore et toujours enregistrée depuis chez soi, et comme je suis chez mamie là, je suis dans sa garde-robe, accompagnée de ses vêtements. C'est assez marrant.
Oui, en raison de la crise sanitaire, on ne peut toujours pas enregistrer dans les studios, on est un peu obligé de faire avec des briques et des brocs, chacun de son côté, et c'est un peu particulier cette circonstance. Et nous faisons donc cette émission d'une manière très, très spéciale, puisque c'est la dernière émission de l'année 2020.
Et oui, déjà
La troisième et la dernière de l'année 2020, mais pas la dernière de la cabane quand même.
Non.
Et c'était quand même une année assez particulière, notamment à cause de la crise sanitaire. On n'en parle pas assez, je trouve.
Non.
Et dans notre thématique de la cabane, où l'idée c'est de parler d'art autour d'une table, un peu de manière entre amis, un peu décomplexée, sans être des experts, la question de la légitimité de l'art dans cette société a souvent été remise en question. Enfin, pas la légitimité de l'art, c'est un peu fort, mais un terme utilisé par le gouvernement et par le président était la question de l'essentialité d'une pratique et l'essentialité des choses. Ce qui a fait un peu... Tu me coupes, Émilie, si je dis n'importe quoi ou si t'es pas d'accord, mais il y a quand même une montée de bouclier un petit peu du milieu culturel en disant finalement, en fait, on nous dit qu'on n'est pas nécessaire, quoi, parce que les théâtres sont fermés, les cinémas sont fermés, les musées sont fermés, il y a tous les projets un peu artistiques qui se mettent en stand-by et même certains qui se sont étouffés et arrêtés.
Ouais.
Et il nous semblait intéressant, en fait, pour cette dernière émission de l'année 2020, qui a été riche en péripéties, que ce soit de la pandémie ou des violences policières ou des élections présidentielles américaines. Enfin, c'était florilège de surprises. il nous semblait intéressant quand même de traiter, finalement, et de poser la question sur est-ce que l'art est nécessaire ou pas nécessaire ?
Des salles de cinéma, de concerts, de théâtre, désespérément vides. Des spectacles annulés par centaines. C'est un monde mis à genoux par la crise sanitaire qui en appelait à des mesures exceptionnelles.
Les établissements recevant du public, dont nous avions prévu la réouverture au 15 décembre, resteront fermés 3 semaines de plus. Les conditions posées pour leur réouverture ne sont hélas pas réunies. Il s'agit principalement des cinémas, des théâtres, des salles de spectacle, des musées.
La culture donne de la peur aux gens. Je veux dire, les gens cultivés sont trouillards.
Mais la culture, c'est l'antidote absolu à l'obscurantisme. Et donc, c'est essentiel. C'est peut-être pas une nourriture du corps, mais c'est une nourriture de l'esprit.
La culture, secteur sinistré et en colère, car jusqu'au 7 janvier au moins, les cinémas, théâtres et autres lieux culturels vont devoir rester porte-close.
Des moments assez difficiles à vivre, forcément, quand on sait qu'il faut parfois un an, plusieurs mois, 2 ans parfois pour construire tous ces projets.
Là, on rentre dans une période où on doit en quelque sorte enfourcher le tigre.
Le tigre de Sibérie est une espèce sérieusement menacée d'extinction. Il en reste environ 400 à l'état sauvage.
Enfourcher le tigre.
Après, des plateformes de Spotify et Netflix, des réseaux sociaux, une consommation de la culture sur son canapé.
Ça y est, j'ai enfin fini tout Netflix, tout Prime Video.
Le spectacle vivant, c'est des moments uniques, c'est des moments d'osmose, c'est des moments de partage entre un artiste et des spectateurs. C'est des moments qu'on ne retrouve jamais.
Et la culture est un fait ethnique, la culture est un fait national et elle est un fait individuel. C'est ce qui donne un sens à la vie ou ce qui aide à trouver un sens à la vie.
La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la Terre.
Monsieur le Premier ministre, le coronavirus a-t-il muté ? Y a-t-il aujourd'hui deux formes de Covid-19 en France ? Je vous demande ça parce que, décidément, ce virus a un comportement bien étrange. Il y a 10 jours, tous les magasins du boulevard Haussmann étaient blindés pour le Black Friday. Mais ça va, là, le virus ne se propage pas. Ce week-end, les chalands ont fait la queue devant Zara. Mais ça va, là, le virus se tient bien sagement. Il est des lieux, en revanche, où le virus se déchaîne. Oui, des lieux où le virus sort ses griffes, ses crocs et se répand. Des lieux où le masque, le gel, la distance ne protègent plus de rien. Oui, soudain, dans les théâtres, les cinémas, mais aussi les musées, les universités, voilà le virus qui surgit, qui bondit, qui répand la maladie. Alors pourquoi là ? Pourquoi justement dans ces lieux ? Devant ce mystère de la science, quelle est votre explication, monsieur le Premier ministre ?
La culture, c'est un mot qu'il ne faut plus dire parce qu'il est devenu presque obscène.
La culture, c'est ce au nom de quoi et ce par quoi une civilisation se choisit.
Alors les gens ici ne comprennent pas les décisions du gouvernement. Pourquoi la culture n'est pas considérée comme un bien essentiel ?
Donc pour situer pour nos auditeurs, c'est une pratique entre guillemets que j'ai commencé pendant Le Masque et la Prune, l'émission qui avait lieu de 18h à 19h à la place de Curiosité, cette quotidienne où c'était cette carte blanche offerte aux différents bénévoles pendant le premier confinement. Et donc j'avais créé ce que j'avais appelé la chronique du chaf, qui était ponctuée de ces petits moments là, comme celui qu'on vient d'entendre, d'actualité et d'autres. Comme là, des reportages sur le tigre, après que Macron nous ait dit qu'il fallait enfourcher le tigre. Et c'est vrai que c'est assez intéressant à faire aussi, parce que du coup, ça me fait voir des vidéos d'actualité que j'avais pas vues. Enfin, par exemple, on entend un moment François Ruffin qui parle à l'Assemblée. Et c'est quelque chose dont j'avais pas entendu parler. Et ça résume, je trouve, assez bien cette problématique de ce qu'a amené le fait que la culture soit considérée comme non essentielle, la problématique que ça amène aujourd'hui. Enfin, pourquoi ? En fait, c'est ça qu'on comprend pas trop. En vue du monde qu'il y a dans les magasins, ça pose des questions, quoi.
Mais c'est vrai qu'on peut, d'un point de vue extérieur, se dire que le milieu artistique ou culturel exagère un peu en se plaignant de se dire « mais ça va, il y a une pandémie mondiale, c'est pas grave si les musées ou les théâtres ou les cinémas sont fermés pendant un certain temps parce qu'on est en période de crise. » Et comme on nous l'avait dit au gouvernement, on est en guerre, quoi. Donc,
ouais, c'est ça.
Donc la culture, on peut s'en passer, sauf que je pense qu'il y a eu des mises en place qui ont fait une incompréhension un peu générale du monde artistique en disant « mais pourquoi ?» Ruffin le dit bien, en fait, on peut ouvrir des grands magasins, des grandes surfaces, mais à côté, on ferme des théâtres, on ferme des cinémas, on ferme même des boutiques locales où peu de personnes circulent, tu vois, mais pourtant, on les ferme parce que c'est une pandémie mondiale.
Ouais.
Mais c'est hyper intéressant de voir comment aussi artistiquement, enfin les artistes ou ceux qui ont une pratique artistique ont vécu un petit peu cette année. Par exemple, si je peux donner mon ressenti et ma vision.
Vas-y, je t'en prie.
Le premier confinement, pour ma part, je l'ai assez bien géré, émotionnellement parlant, parce qu'on était tous un peu dans le même bateau.
Ouais,
il y avait le truc de on est tous confinés, on est tous chacun chez soi, et puis chacun fait avec la circonstance. On avait même à 20h... l'habitude d'applaudir les infirmiers, qui a totalement disparu. Hein.
Oui.
Là, au deuxième confinement, j'ai pas entendu un seul applaudissement. Et donc, le premier confinement, ça allait. Mais le deuxième confinement était assez particulier pour moi, puisque je vis en colocation, et mes deux colocataires travaillent et avaient toujours du travail,
oui.
Comparé à moi, qui, dans un milieu artistique, je suis donc scénographe, ceux qui font les décors ou la scénographie des événements, ou même on peut travailler dans le cinéma et dans le théâtre, il y a eu une sorte de couperet en disant on arrête les projets, on les reporte, et dans le pire des cas, on les abandonne. Donc un peu un abandon d'une partie de la société, c'est un peu ça comment je l'ai vécu. Je ne sais pas comment toi, Éminie, tu as vécu cette période, que ce soit le premier, l'entre-confinement ou le deuxième confinement.
Je pense que c'est un peu la même chose pour moi et je pense que du coup on peut potentiellement élargir à beaucoup de gens de notre secteur, le secteur culturel, parce que du coup moi aussi je suis scénographe de formation, je travaille plutôt dans le cinéma, dans la production de films, enfin sur les tournages en tant qu'accessoiriste. Et le premier confinement ça a été la même chose que toi, dans le sens où en fait on était comme tu dis tous dans le même bateau, en fait personne n'avait de travail, donc finalement c'était assez facile à vivre puisque on n'avait pas cette problématique de se dire bah il faut chercher du travail parce que bah il faut manger, enfin on n'avait pas de travail, personne n'avait de travail, donc c'était assez simple à gérer en fait. Alors qu'au second confinement, exactement la même situation que toi, des colocs qui sont pas dans la culture et donc qui continuent d'avoir du travail, à plutôt travailler, plus tellement à télétravailler comme d'ailleurs à la fin du premier confinement où j'avais beaucoup de colocs qui étaient à la maison, là ils étaient tous retournés au travail pour la plupart. En fait, bah, du coup, je me suis retrouvée toute seule à la maison à pas avoir de travail. Et c'est ça qui a été le plus dur, c'était de me dire que en fait, le travail finalement avait repris, mais pas pour tout le monde en fait. Et avait pas repris donc pour nous, le secteur de la culture. Il y a aussi le secteur de la restauration qui est quand même un secteur qui prend cher comme nous. Et ouais. Donc en fait, c'est assez dur de se dire que comme en fait finalement on est considéré comme non essentiel, du moins au vu de l'économie, hein, on a bien compris pourquoi c'était pas essentiel, je pense. Bah du coup, notre secteur il en pâtit. Et en fait, quand on essaye de laisser de côté ce facteur économique, quand on regarde justement les faits, en fait, on comprend pas, puisque bah en fait, il y a plein d'incompréhensions. Enfin, il y a pas plus de contamination dans un théâtre où on est assis, on porte le masque en fait. Autant, c'est ça qu'on comprend pas. Dans une salle de classe, on est à peu près aux mêmes distances, on porte des masques. Dans une salle de théâtre, c'est à peu près kiff-kiff, et pourtant, c'est fermé, donc. Et un peu ça, qui est un peu difficile à comprendre pour nous.
Ce qui pourrait être intéressant, et d'ailleurs c'est ce qu'on est un peu allé faire, c'est, pour ma part, je suis allé voir un ami, enfin je suis allé voir, façon de parler, mais La Cabane a ce pouvoir de pouvoir rassembler les gens qui sont dans d'autres parties de la France, mais ouais. C'est le grand pouvoir de La Cabane. Et avec un ami qui s'appelle Romain, on est allé... se balader dans une forêt tropicale où j'ai pu lui poser la question de savoir qu'est-ce que pour lui, par rapport à cette thématique de l'art, l'art essentiel, qu'est-ce qu'était sa vision de cette situation.
L'art, on est comme dans une dans la société française, culturellement, on est assez riche niveau art, finalement. C'est un des pays, si je me trompe, j'ai pas de chiffres pour attester, mais c'est un des pays où comme la culture est le pas mal représentée et pas mal consommée, si je peux dire ça comme ça. Donc il y a comme une, moi je vois le rapport un peu en mode économiste, c'est-à-dire que besoin demande et du coup. Et du coup, y a pas mal de personnes qui consomment de l'art, entre guillemets, des spectacles, ce genre de choses. On est un des pays qui résiste le mieux, on va dire, par rapport à la culture. Donc, ça veut peut-être dire qu'il y a un besoin aussi derrière d'aller voir les spectacles et les différentes choses. Donc, je pense que l'art a une place importante dans le pays, principalement notre pays. Je dirais dans d'autres pays beaucoup moins. Donc je suis pas d'accord avec la phrase effectivement comme quoi c'est pas nécessaire. Après, on n'a pas, on va pas être malade si on n'a pas de. Enfin, c'est pas une obligation non plus dans le sens où sans art on peut très bien vivre encore. Oui, on a des outils aujourd'hui qui nous permettent de voir des films avec des applications, ce genre de choses. D'écouter de la musique, on a quand même des outils qui nous permettent en tant que non métier artistique, enfin de personnes qui sont extérieures au milieu artistique, de pouvoir continuer à nos habitudes tranquillement finalement. Mais c'est surtout par rapport, ce qui est dommage et dommageable, c'est surtout le fait que certains artistes puissent ne pas continuer leur métier. Et Mais c'est pas actuellement, en fait, qu'on va avoir les effets, les impacts. Ça sera dans quelques années ou quelques mois, si ces artistes ne peuvent pas continuer, en fait, tout simplement. Les dommages sont pas actuels, pour moi, ils seront dans quelques mois. Ouais. Ça sera la causalité, en fait, de ce qui se passe en ce moment, tout simplement.
Généralement, les gens qui vont au théâtre ou à l'opéra ou voir des concerts, c'est le côté réel qui les intéresse, c'est le côté genre être face à un spectacle, être face à une histoire qui se passe juste devant leurs yeux et qui n'est pas un filtre juste avant. Et ce côté réel et contact de l'autre, qui n'est pas si loin, que ça soit sur scène ou dans une salle, c'est quelque chose que les gens recherchent.
C'est sûr que c'est un métier déjà qui est pas évident, parce qu'il y a souvent beaucoup d'appels pédélus. Je pense que c'est un métier de passion, déjà, avant tout. Il faut avoir du courage, déjà, pour se lancer dans ce métier, je trouve. Voilà, faut avoir envie, parce que il y a déjà une incertitude par rapport au fait que ça va fonctionner ou pas, par rapport au retour des gens. Et si en plus on interdit le fait de pouvoir diffuser, il y a énormément de personnes, je pense, qui vont pas pouvoir, ne serait-ce que éclore, en fait, on va dire, dans ce milieu, quoi.
Ouais.
Des gens qui voulaient se lancer dedans, qui ont commencé en 2019, on va dire, fin 2019, et qui commencent à se lancer dans ce projet, impossible qu'ils aient réussi à percer dans le contexte actuel, et ça se trouve, il y a le prochain clapiche qui va, ou autre qui va
mourir,
va devoir arrêter, quoi.
Ouais. Bah, ça se trouve, on vient de perdre un futur Picasso. On ne sait pas.
Exactement. Bah, Picasso, ouais, clairement.
Des autres Picasso.
Voilà, donc ça, c'était Romain. Romain qui est agent immobilier, donc pas du tout dans le domaine de l'artistique et de la culture. Je lui avais posé la question au début de notre entretien, savoir qu'est-ce qu'il rapprochait de l'art. Et sa consommation de l'art, c'était plus... le cinéma, il est allé plusieurs fois, bien sûr, au musée, comme nous tous, mais il y allait de moins en moins. Il avait vraiment ce rapport plus au cinéma. Et voilà, je trouve que ses réponses sont assez intéressantes, et même c'est assez intéressant de voir une vision complètement extérieure à ça. Notamment quand il dit que l'art... Il y a un peu cette dualité dans son discours qui est à souligner, c'est de dire finalement on n'a pas besoin d'art pour vivre, on n'a pas besoin d'art pour manger ou pour respirer, ou enfin ce n'est pas nécessaire en soi, mais pourtant c'est quelque chose qui est quand même présent, et en France qui est un peu dans notre, avant de dire ça, le culturel est dans la culture française, donc c'est quand même quelque chose qui est dur de s'en séparer, quoi. Et en dernière partie, que je trouve aussi intéressant, c'est qu'il parle que c'est un métier de passion, et c'est quand même un métier aussi. C'est-à-dire que quand on ampute la culture, ça ampute pas la culture. Enfin, la culture, elle va toujours vivre à travers les âges, je pense. Ça a existé depuis... Si on pousse le bouchon un peu loin, depuis la préhistoire, on a eu des peintures, l'art était déjà à ce niveau-là. Et ça continuera sans doute après... Mais en fait, ce qui est dommageable, en fait, c'est les pertes de l'individu. C'est-à-dire que si c'est ton métier et qu'on t'empêche de pratiquer, bah, tu perds ton métier et tu perds l'occasion de t'épanouir dans ton métier aussi.
C'est assez marrant quand tu dis la culture, c'est dans notre culture. Le culturel, c'est dans notre culture française. Ça a été un peu... un point qui a été mis en avant assez rapidement par le secteur culturel pour essayer de créer une exception à la française, ou je sais plus comment c'était tourné. Je sais pas si tu avais entendu parler de ça, ce qu'ils avaient essayé de demander à Roselyne Bachelot, notre ministre. C'était entre les deux confinements, où en fait... ou alors c'était pour le premier confinement, le second confinement, je ne sais plus exactement quand est-ce que c'était, cette source est très... approximative, mais très vague, en fait le secteur de la culture avait mis en avant que justement la France est un pays avec culturellement, où la culture a une place très importante, et qu'on pourrait mettre en place ce qu'ils avaient appelé l'exception française, je crois, ou l'exception culturelle française, quelque chose comme ça, qui en fait, du coup, permettrait au théâtre de réouvrir sous des conditions sanitaires, parce que, en fait, le risque en fermant les théâtres, etc., c'est justement de ne plus être ce pays où la culture a une forte place. Et je trouve ça intéressant du coup que ton ami qui est pas du tout dans la culture et qui comme toi du coup aussi t'en as pas entendu parler de ce mouvement visiblement, je pense que lui il en a vraiment absolument pas entendu parler. Je pense que c'est vraiment ancré dans notre éducation en fait que la France on est un pays où la culture ça a une forte importance mine de rien. Même si comme il dit pour lui on en a pas besoin pour vivre de son point de vue, c'est quand même quelque chose qui est ancré dans sa culture en tant que Français, ce qui est assez intéressant. Après, par rapport au fait qu'on n'en a pas besoin pour vivre, ça fait écho par rapport au premier enregistrement que j'ai passé tout à l'heure, et je n'ai pas le nom malheureusement de la personne qui disait ça, mais en fait, si la culture... oui, la culture, ça permet en fait, finalement d'être plus cultivé, enfin, du moins, comme dira ma grand-mère plus tard dans l'enregistrement qu'on va entendre, de sortir un peu de son quotidien et de son carcan. Du coup, ça amène aussi en fait à être plus évolué. Donc du coup, en fait, on en a quand même finalement besoin pour vivre, pour ne pas être un tas d'idiots qui avalent tout ce qu'on leur dit, quoi. Pour moi, en tout cas, de mon point de vue. Donc pour moi, certes, elle nous fait pas manger, mais en fait, c'est un peu une nourriture de l'esprit qui nous permet de pouvoir évoluer en tant qu'humain.
C'est vrai. Mais d'ailleurs, c'est marrant qu'on utilise un peu la vision personnelle dans ce propos-là. Et même, on pourrait dire que tous les artistes ont à peu près la même vision en disant c'est essentiel. Et justement, dans les recherches, on a trouvé donc une interview de Mathieu Kassovitch qui du coup, a une réaction assez surprenante et a fait aussi... fait parler de lui en disant que le cinéma n'est peut-être... Alors qu'il travaille dedans, le cinéma, lui, et les salles de cinéma ne sont pas essentielles.
Non, c'est pas essentiel, excusez-nous, mais c'est pas essentiel dans la situation dans laquelle on est, non, c'est absolument pas essentiel. Vous avez la télé, vous pouvez très bien regarder les films à la maison, vous avez des livres à la maison, vous pouvez...
Il y a une forme d'amour propre mal placé, un peu, finalement, dans ses réactions.
Non, mais c'est surtout un ego mal placé. C'est que, tout d'un coup, on est le centre du monde d'un problème qui n'est pas... C'est comme les gens qui se plaignent aujourd'hui pour des problèmes qui sont... Ce qui est intéressant avec la pandémie, avec le Covid, c'est que c'est un accélérateur de société. C'est que maintenant, on se rend compte... ça fait un an maintenant qu'on est face à notre propre mortalité et fragilité. En tant que cinéaste, moi, je suis halluciné du changement de paradigme qui est dans la société, de passer de films de science-fiction à tout d'un coup, c'est la réalité. Parce que si vous prenez un peu de recul et que vous promenez dans la rue et que vous regardez une caméra et que vous voyez tout le monde avec les masques, si on vous avait mis ça dans un film il y a 5 ans, ouais. Juste ça, hein, des masques à 90 centimes, on vous aurait mis ça dans un film il y a 5 ans, vous vous dites, mais c'est un vrai film de science-fiction, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est le futur? Eh bien, on est en plein dedans. Donc, ouais, je pense que la réalité dépasse la fiction, que le cinéma n'est plus essentiel comme il l'a été à une époque. Malheureusement, les salles ne sont plus essentielles. Et je pense que... je vais faire créer tout le monde, hein. Je sais que mes potes, tous les gens avec qui je travaille, le futur du cinéma, malheureusement, il est plus là. C'est comme se battre pour qu'une espèce animale ne disparaisse pas. Les tigres vont disparaître, quoi qu'il se passe. Les salles de cinéma sont vouées à disparaître quoi qu'il se passe, et là c'est un accélérateur.
Il y a un truc que je trouve très intéressant dans ce qu'il dit, c'est que la pandémie est un accélérateur de société dans le sens où finalement ça met en exergue tous les fonctionnements dans lesquels notre société fonctionne. C'est-à-dire en gros on privilège ça ou ça ou ça, et du coup on ampute les choses... qui un peu sont en dehors un petit peu du circuit normal de comment fonctionne ce groupe d'individus qui est la France en fait.
Ouais.
Et il parle du cinéma lui parce que c'est son domaine, et dans le sens où là ça apporte aussi une question de se dire finalement si on continue, si par exemple on imagine que cette pandémie dure 5 ans, que deviennent les pratiques qui sont normalement utiliser pour se regrouper, comme les musées, les théâtres, les cinémas, qui en fait vont commencer à se numériser, digitaliser, et en fait on va plus être dans le contact humain, mais plus à une sorte de mise à distance avec le monde, quoi, le monde extérieur. Quand je dis monde extérieur, c'est la société, c'est les gens, c'est le principe de se rencontrer et d'échanger en IRL, comme on dit, en vie réelle, en fait.
Non, IRL, mad.
Et il y avait... moi, il y a un truc qui m'a fait rire, bon, c'est un peu dans une parenthèse, c'est qu'il parle des espèces qui viennent à disparaître. Il évoque le tigre. Moi, je trouve ça très drôle, mais c'est mon petit côté humoristique en me disant... on nous a demandé de chevaucher un tigre qui est voué à disparaître.
C'est vrai qu'il y a une thématique du tigre qui revient dans cette émission. Et c'est un peu triste, hein, quand même, ce qu'il dit, parce qu'on va avoir du mal à trouver des contre-arguments, finalement. On peut en trouver, bien évidemment, mais mine de rien, c'est assez fondé, ce qu'il dit, le fait que les cinémas... sont voués à disparaître et que c'est un accélérateur. En fait, de son point de vue, ça s'entend complètement. Et c'est un peu une vision fataliste qui est assez triste, parce que je pense qu'on a dit ça aussi du théâtre au moment de l'arrivée de l'image animée. Et pourtant, le théâtre est toujours là. Et je pense que la différence entre la télévision et le cinéma, elle existe de par la taille de l'écran, de par le fait qu'on n'est pas seul, qu'on est entouré d'inconnus. Enfin, il y a quand même une différence dans ces lieux, comme la différence qu'il y avait qu'il y a toujours entre la télévision et le théâtre. On a toujours eu peur que le théâtre disparaisse, et pourtant il est toujours là. Du coup, moi, j'ai pas très envie de rentrer dans cette logique pessimiste.
Mais c'est vrai que c'est un peu déroutant, et en même temps, on se dit ah ouais, c'est peut-être. Tu vois, il y a un truc de oui, c'est vrai, et en même temps, t'as pas envie forcément d'y croire en tant qu'individu, parce que, en fait, je trouve que l'art, depuis de nombreuses années, c'est quand même, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est quand même le fait de se rassembler. Et au moment où on dit bah, on n'a plus besoin des cinémas parce qu'on peut avoir Netflix ou plein de plateformes de visionnage, le rapport à l'autre, il est complètement différent. Quand tu rentres chez toi à 20h, tu manges et tu dis « Ah, on ne regarderait pas un petit film ?» Eh ben on va se mettre dans le canapé et on va regarder à travers notre écran... un film. C'est complètement différent de le fait de se dire on va sortir, on va retrouver des amis et on va aller tous regarder un film, et après pour ceux qui sont plus cinéma, après on va se retrouver dans un café pour discuter et échanger sur le film, ce qui est rarement le cas en termes général avec Netflix, même si tu peux inviter des gens chez toi pour regarder un film. Ça me rappelle un truc qu'on avait évoqué il y a quelques jours, je ne sais plus quand, toi et moi, quand je t'avais dit que Mulan de oui. Disney allait sortir au cinéma. On a vu, et sans doute les auditeurs et les auditrices ont vu plein d'affiches partout. Il se trouve, j'ai entendu cette info, qu'il sortait finalement de la programmation des cinémas, le film Mulan. Disney sortait le film Mulan de la programmation pour finalement le mettre sur sa plateforme Disney+, il me semble que c'est ça. Ouais, donc en gros, là, il y a eu une dématérialisation totale du film en disant normalement c'était voué au cinéma, mais le cinéma n'existe plus. Donc, on va passer par notre plateforme pour le faire vendre. Donc, acheter un forfait pour pouvoir consommer des films depuis chez vous, quoi.
Ouais.
Donc, la vision est assez péjorative, en fait.
Complètement.
Et ça serait marrant de... Enfin, nous, en plus, on est nés avec le cinéma, mais je pense à nos parents, nos grands-parents, qui ont un rapport beaucoup plus différent avec le cinéma et à la télévision. Enfin... ils ont vécu des choses beaucoup plus différentes et beaucoup plus fortes. Je pense que ce changement, il doit être pour eux encore plus accentué.
C'est l'instant mamie.
Marie et Gérard, qui sont deux personnes âgées, avec Claudine, ma grand-mère, et on a justement parlé des cinémas fermés. Et du coup, je leur ai demandé, je leur ai posé pour commencer cette question assez simple.
Et alors toi, Marie, les cinémas fermés
Oh bon, écoute, j'ai Canal avec, à la demande, ça me fait des films, des séries à voir inimaginables. Hein. Mmh.
Il y a trop d'œufs, s'il te plaît. Merci.
Ah, on ne peut pas non plus passer son temps devant la télé. Il y a trop d'œufs. Je trouve que j'en passe déjà pas mal à regarder. Et Dieu sait, on était tous à une époque, les enfants et moi, on était ciné. Hein. Ouais.
Pourquoi ça a changé? Pourquoi tu ne vas plus au cinéma?
C'est peut-être depuis la fin du canal. C'était un peu l'idée qu'on avait compté ce que ça nous coûtait. Automatiquement, tu étais chez toi, tu voyais les films. Alors, j'y allais encore il n'y a pas si longtemps, puis je voyais avec mes enfants. Oui. Alors, je voyais des films pour enfants.
Et avant, dans les salles de cinéma, bon, c'était des petites salles, mais il y avait un film.
Bah ça.
Hein, puis maintenant, bon, c'est des grandes salles, c'est vrai, c'est. Enfin, puis c'est surtout plusieurs salles, mais. Avant, s'il y avait un film, un point, c'était tout. Il fallait attendre la semaine d'après pour avoir un autre film.
Tout à fait, oui.
C'est donc automatique.
Une quantité.
Il y avait beaucoup moins de films que maintenant. Hein. Alors, prends-tu des haricots verts? Je vais en prendre un petit peu.
Voilà, du coup, là, on a entendu à l'instant Gérard, Marie et Claudine, qui sont âgées entre, 70 et 80 ans. Et qui nous parle justement du cinéma et de leur rapport au cinéma. Enfin, Marie parle de son rapport du cinéma aujourd'hui par rapport à son rapport au cinéma avant. Elle parle entre autres de l'offre de Canal+, et que, en fait, depuis qu'elle a pris cet abonnement, et que le cinéma est devenu cher aussi par rapport à ce que c'était, il y a plus de cinéma pour eux, en fait. Enfin, en tout cas, elle ne va plus au cinéma. Donc, par rapport à ce que tu disais juste avant, c'est assez intéressant. Je leur ai demandé ce qu'il en était. Enfin, tu vois, je voulais savoir comment c'était le cinéma avant, en fait. J'ai essayé de creuser un peu plus pour qu'ils me disent pourquoi ils y vont plus maintenant. Après, c'était pas chose facile de creuser avec ces trois loustiques, hein, parce qu'ils n'arrêtaient pas de changer de sujet toutes les 5 minutes. Alors, bien évidemment, au bout d'un moment, en fait, la conversation, elle a dévié et on a parlé du confinement. Et donc, Claudine, ma grand-mère, nous a expliqué qu'elle, elle l'a pas si mal vécu, mais que surtout...
Je pense que ceux qui en ont souffert plus, c'est les jeunes qui sortaient. Mais bon...
Avoir 20 ans aujourd'hui, oui.
Oui, c'est pas... Bon, avoir 20 ans à mon époque, on sortait pas non plus, mais...
Mais non, mais je comprends pas pourquoi vous sortiez pas, il n'y avait pas de raison
pourquoi
de sortir.
Parce qu'il n'y avait pas autant
d'offres.
D'offres, les bars, il n'y en avait pas beaucoup, le fric, il n'y en avait pas beaucoup pour les sorties.
Oui.
Donc ce qui faisait qu'on ne sortait pas, c'était tout. Parce que le fric suivant pas, tu ne pouvais pas aller dans... Bon, une fois que tu avais été au cinéma,
oui, il n'y avait pas tellement de distractions.
Il n'y avait pas de distractions. Hein.
Je suis en train de me replonger. Je suis en train de me replonger en 60 quand j'ai 12 ans.
Dans les années 60, les gens, par exemple, les gens jeunes, ils allaient au dancing. Ceux qui aimaient danser.
Dans nos campagnes, 60, les bals du samedi soir, oui.
Oui, toi, t'habitais Évreux. Nous, on habitait Romilly et Fleury, hein, quand on distraction.
C'était encore plus.
Bon, ça va, on avait 12 ans en 60, on avait le temps de voir venir.
Oui, en 60, on était jeunes.
Hein. Tu crois que quand on avait 16 ans, c'était mieux?
Non, mais la classe d'âge, elle était en Algérie, la classe d'âge. Hein.
Oui, mais il y avait quand même une progression déjà à ce moment-là. En 60, c'était vraiment rien comme divertissement, hein. Le cinoche, et puis c'était tout. Hein. C'était la sortie, hein. C'était le cinéma.
Ça, après, on a regardé la puissance des étoiles.
La télé, c'est venu quand même assez tard pour nous.
À la télé, on l'a eu 62-63.
Ouais. C'est tôt. C'est Solange qui l'a eu la première.
Alors, comment ça se passait à l'époque? C'est que tu avais les vendeurs de télé, donc Fleury, c'était Lefebvre qui était rue Courcy, qui mettait un poste, et qui a lu un poste. Et nous autres, petits et grands, on était agglutinés devant la vitrine, et on regardait, sans le son, bien sûr.
Mais tu regardais la télé.
Ben oui, formidable. Rien qu'une image qui bouge, déjà, c'était quelque chose. Et la télé, il faut dire, attends, c'était en noir et blanc, il n'y avait qu'une chaîne.
Oui.
Après, deux, peut-être. Oui. C'était pas palpitant, puis il y avait des... ça passait pas toute la journée.
Oui, c'est avec vrai.
Certaines heures. Si bien qu'on allait jouer pendant une heure, on revenait, ça reprenait l'antenne, on renvoyait le petit Félix Le Chat. Inouï, tu montrais ça à des enfants, ils hallucineraient. Et la façon dont on vivait, nous, à l'époque, quand même.
Ouais, la façon dont ils vivaient à cette époque, en effet, c'était quand même assez différent. Enfin, puis comme ils disent, peu de distractions, peu de choses à faire à l'époque. Alors, le cinéma, c'était un peu la grande sortie, la grande distraction, comme ils disent. D'ailleurs, ils utilisent plutôt le terme de distraction pour parler de ça. Et comme ils mettent en avant, là, il n'y avait pas de télé à ce moment-là. Donc, en fait, comme la télévision, elle n'était pas chez tous, ou du moins chez très peu, en fait, ce que explique ici, c'est que Marie, elle avait la télé, mais en gros, c'était un peu la seule à son époque. C'était un peu exceptionnel qu'elle ait la télé là où elle était. Donc on sent, en fait, dans leur manière de réfléchir, que la télévision et le cinéma, ils sont presque au même niveau, en fait, finalement. C'est une image animée. Et donc, si télévision, il y a, en fait, cinéma, il n'y a plus, presque. À partir du moment où elle a eu Canal, en fait, elle n'allait plus au cinéma. Enfin, on sent un peu que pour eux, le cinéma, c'est pas du tout la même définition que nous, on l'a, de l'art du cinéma. Enfin, avant de débattre sur cette thématique télé vs cinéma, j'aurais quand même essayé de demander si la culture était essentielle ou pas dans notre société. Ils semblaient tous d'accord pour dire que oui, ça l'était. Mais alors pourquoi est-ce que c'est essentiel ?
Pourquoi la culture est importante ? Que ça permet à beaucoup de gens de s'évader, de se cultiver, puisque c'est la culture, de connaître autre chose que ce qu'est le courant. Bon, tu as la culture spécifique à la lecture, à la peinture, tout ça. Donc, il y a énormément, pour moi, il y a un panel où tu peux trouver un élément qui te plaise. Tu n'es pas obligé d'avoir la culture où il faut être exceptionnel dans la littérature et tout ça. Il y a des trucs qui sont tout simples dans la culture, mais qui t'apportent beaucoup de choses. Ce n'est pas que pour les intellectuels, surtout pas. C'est pour tout le monde. Ça apporte à tout le monde un plus. Mais Macron, il ne trouve pas. Donc, tant pis, il est malade, tant pis pour lui.
Alors ils te disent, pour expliquer ça, que c'est quand les gens sont dehors, ils ne maintiennent pas les distances, ils s'agglutinent.
Bah oui, mais dans une salle de spectacle, t'es sur un siège. S'il y a celui d'à côté,
il n'y a personne.
D'autres,
je sais.
Oui, c'est ça. Plus de risques qu'autre chose.
Ça suit les courbes de l'épidémie. Hein. Au lieu de descendre, ça remonte.
Ça remonte gentiment.
On entend assez parler de ça aussi. Hein. Oui. Les gens du spectacle, ils commencent à s'énerver énormément.
C'est ces jours-ci qu'il y a eu des réunions.
Il y a des petits chocolats là-bas.
Émilie, mes amis.
Moi, j'ai pas une pince assez longue pour l'attraper.
Et voilà, le repas se termine bien évidemment avec les petits chocolats, comme on dit, chez moi, les petits chocolats. Visiblement, la culture est essentielle et elle permet de s'évader, de connaître autre chose que ce qui est courant, hein, ce que je disais tout à l'heure, c'est ça qu'elle met en avant, ma grand-mère, et que c'est pas que pour les intellos, puisque ça apporte à tous. Bon, bien évidemment, visiblement, le gouvernement ne semble pas forcément de cet avis, ou du moins, c'est pas une de leurs priorités, ça... Claudine le dit bien. Mais puis après, on voit aussi que le débat, quand on lance le débat de pourquoi c'est fermé, en fait, on a du mal à tenir les justifications et finalement, on va parler du chocolat. Donc j'espère que vous avez quand même réussi à suivre un peu ces conversations qui, comme j'ai dit, elles partent un peu dans tous les sens. Il y a des choses intéressantes, mais c'est vrai que c'était un peu difficile de tenir un fil de conversation durant ce repas. Donc je ne sais pas si, Harold, tu veux réagir par rapport à ce panel de choses qui a été traversé, le cinéma, la télévision à l'époque, etc.
Non, mais ça va, ils sont pas trop partis dans des extrêmes au final. Enfin, tu vois, genre ils auraient pu partir encore plus loin et parler de chocolat bien avant.
Quand même. Hein.
mais c'était très intéressant sur le fait de, en fait, le fait de, on l'avait évoqué, le fait de se rassembler. En fait, c'est vrai que la télé, on peut se poser la question si c'est de l'art ou pas, mais ça fait partie du milieu culturel. À une certaine époque, c'était c'était quand même assez quelque chose. C'est allé chez le voisin parce que lui avait un poste télé ou les choses comme ça.
Complètement.
Complètement. Nous, on n'a pas en fait, trop connu ça, quoi.
Ouais, l'exemple justement qu'elle parle, où elle allait jouer et qu'elle regardait Félix le chat, qui apparemment était un espèce de dessin animé, j'ai l'impression, avec un chat, et du coup ça coupait parfois et ça reprenait, elle allait jouer, et quand ça reprenait c'était encore Félix le chat. Alors, en tout cas ça a l'air de l'avoir marqué, cette histoire de Félix le chat. En fait, en gros, ce qu'elle expliquait et que j'ai coupé là, elle disait qu'en fait c'était chez un ami, une amie à elle, qu'elle allait regarder la télé, et que justement c'était, en fait ils allaient chez cette amie en question parce qu'elle avait la télé. Et que c'était exceptionnel. Enfin, ma grand-mère, elle le dit bien. Oui, enfin bon, enfin, en gros, tu fais partie des précurseurs à avoir regardé la télé. Gérard, lui, regardait à travers les vitrines. Enfin, cette relation à l'image animée est assez intéressante. Enfin,
c'est assez drôle. Et puis il y a quelque chose qui en découle, c'est le fait de dire que la consommation de en fait, l'art ou la culture devient aussi un produit. C'est-à-dire que plus on a de films, pour revenir sur le cinéma. Plus notre rapport est différent, c'est-à-dire qu'eux, ils n'avaient pas tant de films, donc ils y allaient une fois par semaine, ça leur coûtait rien, et puis ils y allaient en famille, et c'était un événement pour se rassembler. Maintenant, quand tous les films ou toutes les séries qu'on peut connaître sont sur nos plateformes, sur notre télé, libre d'accès, quand tu veux, tu peux regarder une série de 6h du matin à 6h du matin, mais de l'autre matin, c'est quand même assez intelligent sur dire, bah, en fait, j'ai tout à apporter. Bon, j'ai pas besoin de partir de chez moi, en fait. Tout est là, quoi.
Ouais, tout est simplifié, en fait.
Tout est simplifié et tout est commercialisé aussi, enfin,
oui, complètement.
Pour le dire. Et sur un dernier point que je voulais faire par rapport à cette interview, c'était assez drôle aussi, que des personnes qui vont pas non plus trop au cinéma ou qui n'y vont plus disent que la culture est importante parce que les gens ont besoin de vivre autre chose, tu vois. Il y a un côté très émotionnel aussi, et donc on dit c'est nécessaire. C'est nécessaire de pouvoir ressentir, de pouvoir être confronté à l'art, et surtout le truc, un peu la clé de voûte de certaines pratiques artistiques, c'est de dire que l'art, il est pas élitiste, il est pas pour certains, il est libre à tous. Et que même certains artistes disent que ben, il faut qu'il soit approprié par tout le monde, en fait. Il faut que tout le monde puisse dire et parler d'art. Ouais, c'est un peu d'ailleurs notre fardeau aussi, nous, avec la cabane. C'est pas le fardeau, le mot qu'il faut dire, tu vois.
Non, c'est pas le fardeau. Notre ligne directrice, peut-être plus, non.
Voilà, c'est ça, oui, voilà.
C'est ce qu'on dit.
Artistique, ouais. Et qu'en fait, quelque chose qui n'est pas essentiel pour un gouvernement, une société, ben, en fait, pour chaque individu, il est quand même, et il peut en pâtir de ne pas pouvoir être en contact de l'art, tu vois, être privé de la relation à l'autre et de la relation à la culture, ça peut en pâtir émotionnellement et mentalement sur des individus.
Je vais sortir de chez moi et marcher dehors, m'arrêter un instant, regarder le ciel. Le soleil sur les toits posera ses reflets d'or. Je vais kiffer voir ça, vu que c'est pas essentiel. Je vais m'asseoir sur un banc 5 minutes avec moi, regarder les gens renaître au pluriel. Je vais parler en silence et sourire à haute voix. Je peux faire ça longtemps, vu que c'est pas essentiel. J'aurais envie d'une BO sur mon film du jour, alors je vais mettre du son dans mes deux oreilles. J'ai les poches pleines de mains et les yeux pleins d'amour. C'est un moment important, vu que c'est pas essentiel. Pas essentiel. Pas essentiel. Essentiel. Embrasser quelqu'un, pas essentiel. Ouvrir un bouquin, pas essentiel. Sourire sincère, pas essentiel. Aller au concert, pas essentiel. Se promener en forêt, pas essentiel. Danser en soirée, pas essentiel. Retrouver les gens, pas essentiel. Spectacle vivant. Quelques mois sans beaucoup de couleurs, confinement noir et blanc, délivrance arc-en-ciel. Je vais offrir des chansons, des sourires et des fleurs. J'en aurai plein les mains vu que c'est pas essentiel. Je vais aller traquer avec les premiers venus, si pour faire la fête sont un bon potentiel. Avec la famille, les potes et des inconnus, on va lever notre verre à ce qui est non essentiel. Puisque la vie est une succession de superflus, soyons superfous et superficiels. Protégeons le futile et sur ce je conclue, n'écoutez pas cette chanson, elle est pas essentielle. Pas essentielle. Pas essentielle.
Embrasser quelqu'un, pas essentiel. Ouvrir un bouquin, pas essentiel. Sourire sincère, pas essentiel. Aller au concert, pas essentiel. Se promener en forêt, pas essentiel. Danser en soirée, pas essentiel. Retrouver les gens, pas essentiel. Spectacle vivant.
Donc on vient d'écouter à l'instant Grand Corps Malade et son titre Pas essentiel que tu nous as choisi, Harold, c'est ça?
Oui, bah en fait elle est complètement dans la thématique, notamment parce qu'elle a été écrite récemment cette année pendant cette période où on se pose des questions sur l'art et sur le... Surtout on se pose des questions sur le choix du mot de pas essentiel. Et ce qui est un peu évoqué par Grand Corps Malade dans ce titre, c'est que il y a beaucoup de choses qui sont pas essentielles, comme aller se balader en forêt, comme sourire, comme embrasser quelqu'un qu'on aime. Mais pourtant, émotionnellement, on en a besoin et ça fait partie de nous, quoi. Donc c'est assez intéressant de... Là, on est plus parti sur le fait du mot qui, moi, je pense sincèrement, a très mal été choisi par notre cher Emmanuel oui. Macron et son gouvernement. Et c'est pour ça qu'il y a eu aussi un peu... un soulèvement de foule du côté artistique, de se dire mais comment on peut dire que certaines choses de la société sont essentielles et d'autres sont pas, alors que l'art, surtout quand on touche à l'émotionnel et au sensible, où on dit que c'est important de conserver ça dans une société et dans un fonctionnement de société, comment on peut dire, comment un gouvernement peut dire que c'est pas essentiel?
Ouais, surtout que si on regarde la définition de essentiel, c'est de l'essence qui est de nature, qui est dans la nature de quelque chose ou de quelqu'un, qui est constitutif de quelque chose. Et du coup, par rapport à ce que tu dis, de l'émotion que ça procure, j'ai l'impression qu'en fait, justement, les deux, par sa définition, la culture est essentielle, en fait. Et c'est vrai que je pense qu'en effet, là, il y a eu une erreur de fait en utilisant ce terme, qui est un peu un foiré, quoi, on peut le dire. Mais pour revenir sur Grand Corps Malade, il est quand même assez productif ces derniers temps, je trouve, par rapport à ses chansons, et assez percutant, intéressant, puisque pendant le confinement, il avait fait aussi Effet Secondaire. Je sais pas si tu l'avais écouté, Harold.
Non.
Que j'avais, j'avais passé aussi des extraits, bah, justement, dans la chronique du chef durant Le Masque et la Prune, qui parle bah, justement des effets secondaires de ce confinement. Moi, je vous la conseille, je vous conseille d'aller écouter ça. C'est pas une grande découverte pour vous auditeurs de parler de Grand Corps Malade, mais je pense que ces textes sont quand même, on peut pas dire le contraire, intéressants et percutants, et en tout cas, il met l'accent sur le fait que, enfin là, en discutant, on se rend compte que le mot essentiel, en fait, c'est loupé, quoi. C'est pas ce mot-là qu'il aurait fallu utiliser.
Vraiment pas ça qu'il fallait dire, oui. Ouais, ça offre. Finalement, ces textes offrent une vision différente d'un fonctionnement ou d'un schéma de pensée.
La cabane.
Mais j'aimerais bien terminer sur une sorte d'interview que j'ai faite avec mon père. J'avais à cœur de le faire puisqu'il a une pratique assez particulière et que je trouve aussi intéressante dans le fait de dire est-ce que l'art est utile ou l'art est nécessaire ou essentiel.
J'ai un métier qui s'appelle architecte urbaniste et on peut dire, certains me qualifient que il est un peu particulier dans la mesure où j'associe une autre activité qui est devenue une profession, qui est metteur en scène. J'aurais tendance à dire plutôt metteur en espace, en particulier par rapport à l'espace public. Ce qui peut donner presque une orientation sur ce que je peux faire sur les territoires et la manière dont je peux porter les choses sur les territoires. Certains, même il y a des mouvements qui disent qu'on pourrait être des géo-artistes. C'est-à-dire qu'on s'appuie beaucoup sur la valeur intrinsèque des territoires, en particulier la géographie, autant dire de ce qu'elles ont de consistance, de ce qu'elles ont de singularité, pour pouvoir justement appuyer les projets de révélation des territoires appuyer aussi ce qu'on appelle de plus en plus et ce qu'on est en train de porter aujourd'hui, ce qu'on appelle les récits communs, pour emmener les élus, les habitants dans une même ligne directrice et qui soit partagée par un maximum de personnes. Plutôt que de dire on va faire des analyses complètes sur le territoire, les données chiffrées, démographiques, économiques, etc., etc., c'est plutôt de travailler sur les valeurs à la fois émotionnelles et les valeurs autres qui peuvent être portées culturellement sur le territoire, pour penser au maximum les choses de manière partagée, de façon à ce que ce soit approprié, de façon à ce que les gens s'emparent réellement de ces fondements-là et de la manière dont ils peuvent se projeter sur le territoire. C'est pas l'homme avec un grand H qui fait le territoire, mais plutôt le territoire qui fait ce que nous sommes. C'est-à-dire de changer d'une vision anthropomorphique et de dire on a des croisements très forts sur ce que peut être la nature ou autre qui amène. C'est-à-dire c'est pas que la vision de l'homme, mais c'est aussi la vision de la nature, de la faune, de ce qu'on veut, etc. De cette fichue géographie dont tu as parlé, et en particulier de la géologie qui va amener toute la valeur du territoire. Ça peut paraître très conceptuel, mais c'est à partir de ces fondements-là qu'on peut créer ce que nous on appelle le récit commun. Se dire, il y a une singularité, je m'en empare, je développe quelque chose qui a ce vrai ancrage et qui va raconter les choses à sa manière. Ce qui ne nous empêche pas toujours de travailler, d'habiter, voire même de s'épanouir sur les territoires. Et c'est ce qui pose la question aujourd'hui, en particulier sur le milieu rural, c'est-à-dire de vouloir banaliser les choses en disant, si ça marche à l'endroit, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas, nous, là-dessus ? Mais non, c'est de travailler sur cette singularité ou spécificité d'un territoire dans tout ce qu'il est, dans ses croisements, dans ses tenants, dans ses aboutissants.
Et donc toi, tu as un peu la double casquette de architecte urbaniste et tu as aussi metteur en scène. Donc tu as aussi un côté très artistique, presque conceptuel, comme tu l'as évoqué. Et en quoi cette posture du metteur en scène, pour toi, elle te semble importante dans ce travail-là ?
J'essaie, même quand j'appuie les élus, on appuie, d'être dans la même aventure qu'eux, non pas de se dire, écoutez, j'arrive, c'est moi, je suis l'expert, écoutez, c'est marqué là sur mon revers de chemise, écoutez-moi, j'ai la bonne parole, etc. Surtout pas ça. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que justement, dans ce croisement-là, avec la question que tu soulèves sur l'artistique, c'est le fait de dire... Adoptons notre posture, vous élus, vous habitants qui réfléchissez, c'était se dire, prenons du recul et prenons de la hauteur. Et je pense aujourd'hui que l'artistique est tel qu'on l'emploie sur l'espace public, sur la révélation du territoire, force, dans le bon sens du terme, à prendre ce recul, prendre ses hauteurs. Pas prendre les gens de haut dans la hauteur, mais c'est prendre de dire, je m'extire un peu de ces éléments-là, et je me pose et je regarde. Et c'est d'inviter les élus à se dire, notamment par le biais de l'artistique, ils ne vont pas forcément l'aborder, mais on peut l'amener là-dessus, c'est dire, peut-être qu'on peut prendre appui sur des compagnies artistiques ou d'autres qui ont des approches et qui ont un schéma de pensée qui questionne, qui peut perturber aussi, mais surtout qui questionne, pour pas que les choses soient dans un fonctionnement logique et classique. Justement, prendre ce regard, cette hauteur, pour arriver à se poser la bonne question. Ça, c'est un élément qui, moi, me paraît important. C'est pour ça que j'ai souhaité, moi, associer, en tant que metteur en scène, faisant du théâtre depuis fort longtemps, de dire, mais quand je construis un spectacle, j'ai un propos global, je vais tirer tous les aimants, je vais questionner ce propos-là, et je vais essayer de mettre en place des dispositifs par le biais des comédiens, par le biais de l'écriture ou autre, pour dire, je vais raconter quelque chose, pour que celui qui va recevoir ça soit en mesure d'être en posture, ce qu'on appelle, comme le disait Brecht, en posture de distanciation. C'est-à-dire, j'avale pas ça tout cru, mais je me pose la question là-dessus. Et quand le fait de dire sur l'espace public, entre autres, ça a été ça aussi, se dire, mais l'espace public, c'est un endroit qui construit du commun. L'espace public, par excellence, c'est pas parce que j'ai ma maison qui donne sur l'espace public que je dois dire, moi je veux absolument que dehors, ça soit aménagé comme je veux parce que j'habite juste à côté. Donc d'être dans une construction plus collective et de prendre ce recul-là en disant, moi, quelle vision j'ai et comment tout le monde va avoir cette vision-là pour construire. Et l'artistique peut vraiment nous aider là-dessus. Et donc, la question, pour revenir là-dessus, la question artistique, elle est fondamentale dans l'approche parce qu'elle permet de dédramatiser ça aujourd'hui. Et la crise sanitaire montre cette importance-là aujourd'hui avec ce qu'on appelle cette fichue distanciation, qui est de dire que si on perd ça à terme, on va perdre beaucoup de choses.
En gros, ce qui était assez intéressant dans cette entrevue avec mon père, c'est qu'il parle de sa pratique et de sa casquette de metteur en scène par rapport à son métier d'architecte, d'architecte urbaniste qui agit sur les petites communes pour les revaloriser. Et je lui ai posé d'ailleurs cette question en disant, est-ce que la pratique de l'art est nécessaire pour toi ? Et pour elle, elle est ultra intéressante et ultra nécessaire parce qu'elle lui permet d'apporter des outils qui rapporte justement du sensible et qui n'est pas dans une sorte de productivité d'une société de mégalopole où on va créer des services, on va créer des choses qui sont efficaces en fait, mais plus à partir sur du sensible, sur des récits de territoire, sur des choses en fait qui parlent plus à l'émotion et de se dire ben en fait est-ce qu'on a envie de vivre dans une commune qui est efficace ou alors dans une commune qui a des choses à raconter et qu'on a envie d'échanger et de partager avec nos familles, avec nos amis ou même avec des gens qu'on connaît pas et qui viennent sur notre commune pour qu'on leur raconte des histoires. Et en ça, l'art est indispensable et surtout ce qu'il dit à la fin.
On s'aperçoit sur des périodes plus récentes que l'art est emparé aussi par le plus commun des mortels, entre guillemets, hein, sans chiffonner les uns les autres, mais accessible par le plus commun des mortels, en disant moi aussi je suis en mesure de m'emparer de ça. Et c'est ça qui est intéressant dans le cadre d'une société, c'est de dire de ne pas réserver ça, ce qu'on peut qualifier d'art. Alors aujourd'hui il y a des marches, il y a du marché, il y a de l'économie autour de ça qui fausse un peu les débats autour de là, qu'est-ce qui fait art ou pas art. J'ai tendance à dire qu'à partir du moment où quelqu'un s'investit dans, travaille sur la question de l'épanouissement, qu'il vit quelque chose d'un peu particulier autour de ça, j'ai tendance à dire ça fait et ça peut faire art. Enfin, oui, j'ai tendance à dire à partir du moment où les gens proposent quelque chose, offrent une autre image, qui soit dans un élément qui peut être un élément de débat, c'est peut-être ça finalement. Peut-être que l'art, enfin, tout peut porter à débat. Mais peut-être que l'art, dans sa spontanéité, enfin dans ce qu'il propose, amène à débat et pouvoir échanger autour de ça. C'est peut-être ça la question de l'art.
Voilà, j'espère que en tout cas cette émission, chers auditeurs, chères auditrices, vous a plu, qu'elle vous a donné un petit peu du grain à moudre dans vos pensées par rapport à l'art et à la nécessité de l'art. Et puis on vous souhaite une agréable fin d'année, même si celle-là, si elle est un peu complexe par rapport au schéma actuel. Mais vous pouvez nous retrouver sur des réseaux sociaux comme Instagram, Facebook et aussi sur le site prune.net où cette émission sera rediffusée. Et vous pouvez nous retrouver bien sûr.
Sera disponible en podcast.
En podcast, oui. Podcast, on est à la pointe de la digitalisation finalement, nous aussi. Et vous pouvez aussi nous retrouver donc bien sûr chaque dernier mardi du mois sur Prune de 13h à 14h.
Et on se retrouve donc en janvier dans les studios, nous espérons, et fini les fonds de placard, les chambres d'adolescents chez nos grands-parents. Nous allons retrouver normalement nos micros et notre studio tant espéré. Et puis bah, je vous souhaite une bonne année, une bonne fin d'année à tous. Et à l'année prochaine.
Et n'oubliez pas les chocolats.
Les chocolats.
Vous venez d'écouter l'émission culturelle La Cabane. Retrouvez nos deux acolytes, accompagnés d'un nouvel invité, chaque dernier mardi du mois, de 13h à 14h, sur Prune 92 FM. La Cabane, l'émission où l'on parle d'art sans complexe.
C'est toi qui as les clés ?
Non, cette fois, c'est pas moi qui ai les clés.
Ah oui, elles sont là.